C'est pas mal, c'est assez. Eh bien non, c'est pas assez, puisque aujourd'hui, cette même famille possède 1 157 827 fois la fortune d'un Américain moyen. Au point que si on compare sa fortune non pas à l'Américain moyen, mais aux Américains les plus pauvres, le patrimoine des Walton est aussi important que le patrimoine des 48 800 000 familles américaines les plus pauvres. Vous voyez, c'est ce que je disais, on est à un stade où le terme de pathologie s'applique.
D'autant, je vous coupe deux secondes, ces Walton-ci sont des héritiers.
Sont des héritiers, absolument.
Ils n'ont absolument rien fait pour construire cette fortune.
Absolument, mais on verra tout à l'heure que cette loi des héritiers, on la retrouve ailleurs. En Italie, même phénomène, les 10 premières fortunes nationales détiennent autant que les 3 millions d'Italiens les plus pauvres. Et en Inde, où vous avez aussi des milliardaires en dollars, vous en avez 61 qui détiennent à eux seuls 22% des richesses du pays, un pays où il y a pourtant plus d'un milliard d'habitants. Alors, on a souvent dit ici que cette flambée des inégalités avait été le résultat non pas d'un miracle de la nature, mais de politiques publiques. Les privatisations, le libre-échange, la financiarisation de l'économie, la démolition des syndicats, etc., je n'y reviens pas.
Ça, c'est les éditos des mondes diplomatiques des dernières années.
C'est pas seulement les éditos, c'est aussi les enquêtes, c'est aussi les analyses, ce sont les études. L'éditorial est une manière de prendre position, mais à partir de données qui ont été observées et documentées un peu partout dans le monde. Le deuxième élément qui me paraît donc important, c'est la mise en cause de la démocratie politique. On constate depuis quelques années que les décisions publiques ont non plus seulement durci la structure inégalitaire des pays, mais qu'elles ont mis en cause leur fonctionnement politique démocratique. En théorie, vous le savez, l'économie fonctionne de manière censitaire. C'est la loi du 1 dollar ou 1 euro égale une voix. Si vous êtes plus riche, évidemment, vous pesez davantage dans le fonctionnement de l'économie. La politique, elle, théoriquement, n'est pas censitaire. Puisqu'avec elle, c'est la loi du suffrage universel qui s'exprime, un homme ou une femme égale une voix, qu'il soit riche ou qu'elle soit pauvre. Or, cette distinction entre économie et politique est de moins en moins pertinente. Les lois de l'économie débordent sur la politique, comment ? Eh bien, les politiques économiques qui ont été pratiquées, un peu partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Russie, en Inde, en Chine, et sur ce plan, le basculement du monde vers l'Asie n'a fait aucune différence, ces politiques économiques ont créé et ont consolidé une caste de privilégiés. En Chine, par exemple, où le revenu annuel moyen excède à peine 2500 dollars, le Parlement compte 83 milliardaires. Parlement chinois dont les membres sont adhérents du Parti communiste. Une caste de privilégiés, oui, car désormais les privilèges se transmettent de manière héréditaire. C'est ce que vous observiez tout à l'heure à propos des Walton, grâce à la chute brutale des droits de succession et grâce aux techniques d'évasion fiscale. Avant, l'État prélevait quand même une part assez importante des fortunes au moment de leur transmission, ce qui est de moins en moins le cas.
Et c'est ce qu'a voulu éviter Bernard Arnault avec son exil raté en Belgique,
absolument,
le pauvre.
Qui lui permettait de payer des taux d'imposition de 5 ou de 10%, là où il aurait dû payer 4 ou 5 fois plus. On a appris la semaine dernière, la même semaine en France, par exemple, que Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère, venait personnellement d'empocher 113 millions d'euros après avoir vendu ses actions de ADS. Et la même semaine, on apprenait que Delphine Arnaud, fille de Bernard Arnault, allait entrer au conseil d'administration de Havas et qu'elle y retrouverait Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré. Autant de confirmations supplémentaires que pouvoir et fortune sont très largement héréditaires. Cette caste de privilégiés, héréditaire ou non, investit l'État. Au double sens du terme investir, elle occupe l'État, la politique, et elle l'occupe pour en tirer un profit. Elle investit dans la politique. Pour le dire autrement, grâce à leur grosse fortune, les grosses fortunes obtiennent de grosses influences. Et grâce à leurs grosses influences, ces grosses fortunes encouragent les politiques économiques et sociales qui leur permettront d'accroître un peu plus leur fortune.
C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux.
C'est un cercle, voilà, vertueux. C'est la définition même du cercle vertueux. Ces politiques qui leur permettront d'accroître leur fortune, c'est une fiscalité accommodante, mais aussi des privatisations avantageuses, des concessions de travaux publics. Ainsi, le Mexicain Carlos Slim,
numéro 1 mondial.
Numéro 1 mondial en termes de fortune, est devenu numéro 1 mondial parce que, au Mexique, l'ancien monopole public des télécommunications a été acquis par Carlos Slim, qui est maintenant à la tête d'un monopole privé. Et il y est parvenu grâce à l'appui de l'État mexicain, qui ne pouvait rien lui refuser et qui d'ailleurs envisage à présent de s'attaquer à